والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه الى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. شيخ الاسلام، nous allons voir aujourd'hui inshallah une solution, une qualité qu'un musulman doit développer intérieurement. On avait dit qu'il y a des sifat, des qualités que le musulman développe dans les zahir al-ibadat, des actes d'adoration qui sont visibles. Et il y a d'autres qualités que le musulman doit développer. Ce sont des qualités plus cachées, qui sont plus intérieures. Et parmi ces qualités intérieures que le musulman doit développer, c'est at-tawadu', l'humilité. Et quand on parle de at-tawadu', les hadiths précisent bien at-tawadu' lillah, faire preuve d'humilité pour Allah. Ça veut dire quoi faire preuve d'humilité pour Allah? Ça veut dire que je parviens, j'arrive dans mon esprit à casser mon ego, à mettre de côté mon orgueil, à me rabaisser par amour pour Allah en recherchant le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on analyse les gros problèmes de cassure qu'il y a dans la société, dans les couples ou alors dans la famille ou même dans les relations amicales ou parfois même de travail, on remarque que très souvent l'origine c'est quoi? C'est la fierté et l'orgueil. Quand il arrive un problème dans un couple entre monsieur et madame, ou entre un patron et son employé, ou entre même deux collègues de travail, très souvent lorsqu'on a compris, à un moment donné, on finit par comprendre qui avait raison, qui avait tort, mais si on a tort, il y a comme un certain regain d'orgueil, on fait preuve d'un certain fakhr, d'une certaine fierté, qui fait qu'on ne voudra jamais se rabaisser et aller s'excuser auprès de la personne. Dans une relation de couple, quand il y a eu une scène de ménage entre monsieur et madame, chose qui arrive à tout le monde, chose qui était arrivée même à l'époque du prophète alayhi salat wa salam, dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa salam. Mais notre prophète n'a jamais répondu, il a toujours passé sur les sceaux du muet de une ou de ses épouses. Et donc, quand il arrive un problème de ce type, relation conjugale dans un couple, et qu'à un moment donné, il y a la pression qui monte, à un moment donné ça refroidit. Et à un moment donné, on voit bien que peut-être que j'ai eu tort. Peut-être que j'aurais pas dû m'emporter pour quelque chose de si peu important. Et là, le mari, logiquement, il se doit d'aller vers son épouse et de s'excuser. Et voilà, mon comportement était un peu excessif. Ou alors, comme on dit, mes paroles ont dépassé ma pensée. C'est mince, excuse-moi et on arrête là. Mais la fierté dans l'homme fait que je ne suis pas prêt à aller se rabaisser. Mais ce n'est pas se rabaisser, ça. C'est faire preuve d'humilité et de reconnaître ses erreurs. Alors que si le musulman savait développer cette qualité, il n'y aurait pas eu autant de divorces dans les couples, il n'y aurait pas eu autant de cassures dans les familles, et il n'y aurait pas eu autant de cassures d'une manière générale dans la Oumma. Et la cassure dans la Oumma, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille, c'est quelque chose d'extrêmement préjudiciable, tant pour mon iman, mes a'mal, que pour l'ijtima', pour la relation de la communauté. Celui qui n'adresse plus la parole à un frère musulman. Quand on dit un frère musulman, ce n'est pas frère de sang. Un mu'min, innamal mu'minuna ikhwa, au-delà de trois jours, Allah Azza wa Jal n'accepte plus ses actions. C'est-à-dire les actions ne sont plus acceptées, ne montent plus au ciel. Ça, c'est concernant les relations amicales. Maintenant, que dire des relations familiales? Si quelqu'un rompt les relations familiales volontairement, Allah Azza wa Jal dit dans un hadith qudsi que celui qui coupe les relations familiales, qata'ahu Allah, Allah Ta'ala détruit cette personne. Alors que celui qui fait en sorte de rétablir les relations dans une famille où il y a des problèmes, il fait en sorte de faire le premier pas, Allah Azza wa Jalla lui accorde beaucoup de baraka, beaucoup de bénédictions et beaucoup d'ouverture. Et là encore, pour pouvoir rétablir des relations, qu'est-ce qu'il faut en priorité? Faire preuve d'humilité. Savoir se rabaisser, mettre sa vérité, sa raison et tout de côté et se dire que on fait ça pour Allah. On ne fait pas ça pour se dire que je suis un bienfaiteur ou alors pour qu'ils reconnaissent que je suis le plus noble, le plus généreux. Non, je fais ça par amour pour Allah, parce qu'Allah Azza wa Jal a demandé que les musulmans s'entendent bien, que ce soit de le couple, de la famille ou entre les amis. Ça c'est at-tawadu' lillah. Et notre prophète alayhi salat wa salam a maintes et maintes fois insisté sur cette qualité que le musulman se doit de développer. Alors on peut être un super adorateur d'Allah, barbu, le beau kafni, tout ce qu'il faut, les cinq salades, le hajj, le umrah, le lecture Qur'an, c'est-à-dire la panoplie, alhamdulillah, ce qui est une bonne chose, du bon musulman extérieur. Mais à l'intérieur, on peut être habité par des maladies tellement mauvaises, une telle gangrène qui est en train de ronger le cœur, qu'en même temps, il ronge notre cœur, il ronge notre iman, il ronge nos actions. C'est pour ça qu'il était important d'arriver à ce travail de thèse qui a de purification intérieure et d'enlever de ce cœur-là tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais. Et ce n'est pas pour rien si notre prophète a dit qu'il y a dans le corps de l'homme une partie, si cette partie-là, elle est saine, le corps entier sera saint. C'est le cœur. Si le cœur est propre, il n'y a rien, il n'y a pas de saleté de ce cœur, mais Inch'Allah, le reste du corps également répondra à ce cœur qui est saint. Le prophète, alayhi salam, il y a un hadith très connu d'Abu Huraira, il dit que « Ma naqasat sadaqatun min mal ». Le prophète, alayhi salam, il jure dans notre hadith, le récit prophétique commence par le qasam, je jure par Allah, que jamais la sadaqa ne diminue les biens. Ça, c'est une phrase d'introduction. Le prophète dit que quand un musulman donne dans le chemin d'Allah, il ne faut pas croire que j'ai tiré 20 euros, donc j'ai 20 euros en moins dans mon compte. Mathématiquement, oui, mais en termes de baraka, de hasana, j'aurai beaucoup plus que ça. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّا. Lorsqu'un musulman, il pardonne à son prochain, Allah Ta'ala lui accorde l'honneur. Souvent, on pense que celui qui pardonne, c'est quelqu'un de faible. C'est-à-dire qu'il n'a pas su tenir sa position. Et il pardonne, il fait ça deux jours, après les causes avec le bouc. Après la race, ça bouge là. Non, le prophète dit bien que celui qui fait preuve, hein, qui sait pardonner à son prochain, Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala lui donne encore plus de izza, Allah Ta'ala lui donne encore plus d'honneur. Moi, j'ai l'impression que celui-là, il s'est rabaissé. Il est parti demander pardon, mais il a accepté le bouc, il a jugé devant tout le monde, il a pardonné le bouc, il cause bien avec lui. C'est comme si que, ben, il n'a pas d'honneur cet homme, mais bien au contraire, il a pardonné par amour pour Allah. Il s'est rabaissé, il a fait preuve d'humilité pour Allah, et Allah Ta'ala lui donnera plus de izza, lui donnera plus d'honneur. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ. Et lorsqu'une personne se rabaisse pour Allah, Allah Ta'ala l'élève. Dans un hadith, j'avais vu, je n'ai pas noté ça, Omar Ibn donnait cet exemple que quand quelqu'un se rabaisse pour Allah, il avait utilisé le signe de sa main avec la paume de la main via le sol. Lorsque le musulman se rabaisse pour Allah, Allah Ta'ala, il élève. Il vaut mieux être élevé auprès d'Allah et considéré comme quelqu'un de simple d'esprit auprès des gens que d'être considéré comme un noble, un gentilhomme auprès des hommes et pour Allah être un orgueilleux et un hypocrite et un munafiq. Et notre prophète, alayhi salat wa salam, donc, il l'a conseillé, il le mettait en pratique. Et on pourrait voir ça en deux étapes, inshallah. À travers différentes actions de sa vie, notre prophète, alayhi salat wa salam, nous a montré comment le musulman doit faire preuve d'humilité. Parce qu'on dit être humble, d'accord, mais comment développer l'humilité? Alors, tout d'abord, notre prophète, alayhi salat wa salam, avait pour habitude de fréquenter tout le monde. On avait vu la dernière fois, je ne sais pas ici où je parle, Wallahu a'lam, c'est incroyable. Quand on parlait de l'importance de faire salam aux gens, afshu salam a baynakum, et notre prophète disait faites salam à tout le monde, les gens que vous connaissez, mais également les gens que vous ne connaissez pas. Et le fait que le prophète alayhi salatu wasalam fréquentait tout le monde, il fréquentait les nobles, les gens riches, mais il fréquentait les pauvres, il s'asseyait parmi les pauvres. Et notre prophète alayhi salatu wasalam avait même demandé ce doigt à Allah, oh Allah, fais-moi vivre parmi les pauvres, donne-moi la mort parmi les pauvres, et ressuscite-moi le jour de Qiyamah parmi les pauvres. Le prophète savait quelle était les faveurs qu'Allah Azza wa Jal va accorder aux personnes qui étaient privées des biens de ce monde dans ce dunya. Et si je vois que moi j'ai du mal à rester auprès des gens démunis, ça veut dire que dans mon cœur il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il y a un pourcentage de kibr, il y a un pourcentage d'orgueil, de fierté. Et il suffit, ça c'est certainement le seul péché, le seul défaut qui est intolérable. C'est peut-être le seul défaut qui est inacceptable pour un musulman, c'est faire preuve d'orgueil. Parce que l'orgueil et la fierté, ce sont des qualités qui sont propres à Allah Azza wa Jal. Et Allah, il est le créateur, il est en droit d'être fier, d'être au-dessus de tout le monde. Mais le mu'min n'a pas le droit de développer 1% de kibr ou de fakhr, d'orgueil ou de fierté dans son cœur. Dans le hadith, Bouazam dit que « A'kulu kama ya'kulu l'abdu wa ajlisu kama yajlisu l'abdu » Le Bouazam dit que « Je mange comme les serviteurs mangent. » À l'époque, Bouazam, il y avait des esclaves, descendants d'esclaves. Après, ils ont été affranchis. Le prophète disait que « Moi, je mange comme ces gens-là, comme ces esclaves, ces serviteurs. Je mange comme eux et je m'assois comme eux. » Alors qu'il était qui? Le prophète d'Allah. Il n'avait pas un trône, il n'avait pas un palais où le recevaient les gens. Et Wallahi shattani, hein, la différence qu'il y a entre le prophète alayhi salatu wassalam et ceux qui dirigent, hein, aujourd'hui, que ce soit pays musulman ou non musulman, regardez une personne qui dirige, avant de se soucier de la famine, du chômage, des problèmes du peuple, la première chose, son premier ficage sera quoi? Faire en sorte qu'il ait un beau palais, qu'il ait un trône, qu'il ait un... Yani qu'il vive dans l'opulence, dans la richesse. Même si c'est un pays pauvre, où 90% des gens vivent au-dessous du seuil de la pauvreté, mais le dirigeant se doit d'être très riche, d'avoir une Mercedes, d'avoir de belles voitures, alors que notre prophète, alayhi salatu wassalam, il restait parmi les pauvres, et il disait que je mange comme ses habitués, ses esclaves, et je m'assois comme eux. Et cela illustre bien, au début, notre prophète, alayhi salatu wassalam, il raconte à Aïcha, dit à Aïcha, oh Aïcha, Si je voulais, Allah Azza wa Jal m'aurait donné comme richesse des montagnes et des montagnes d'or. La sarat ma'ya jibal al-zahabi. Elle dit qu'une fois un ange est venu me voir en compagnie de l'ange Ibrahim alayhi salam. Et il a dit que inna rabbaka yaqra'u alayka as-salam. Allah Ta'ala t'adresse les salams. Au prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah Ta'ala te demande in shi'ta nabiyyan 'abda wa in shi'ta nabiyyan malika. Et Allah te propose, est-ce que tu veux être un prophète serviteur d'Allah ou alors un prophète en étant un roi? Et le prophète dit fa nazartu ila Jibril alayhi salam. Et j'ai regardé l'ange Gabriel Jibril salam et l'ange Jibril m'a fait un signe an da' nafsak. Fais preuve d'humilité. Choisis la position la plus humble. Et le prophète alayhi salatu wassalam a répondu Nabiyan Abda. Je préfère être un serviteur d'Allah, prophète et serviteur d'Allah, c'est-à-dire vivre dans le strict minimum, à la limite de la pauvreté. Mais le prophète sallam a choisi la pauvreté. Il y a des mois qui passaient sans qu'il n'y avait de fumée qui sortait de la maison du prophète alayhi salatu wassalam. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'avait rien à cuire, ni graines, ni riz, il n'y avait pas de riz, ni des graines secs, ni la viande, ni rien du tout. Et il mangeait dattes et de l'eau basse pendant des mois et des mois. Notre prophète a choisi ce mode de vie et il a demandé à Allah de le faire vivre pauvre et de le faire mourir pauvre et d'être ressuscité parmi les pauvres parce qu'il savait qu'être riche de ce dunya cela n'apporte strictement rien. Alors le shahid de ce hadith, ce qu'on retient, c'est que notre prophète a préféré l'humilité plutôt que la fierté. Et si notre prophète aurait été un prophète et roi, il n'aurait pas fait preuve d'orgueil, de fierté. Il aurait utilisé tous ses bienfaits dans le bon chemin, en donnant sadaqa au maximum de musulmans. Mais malgré ça, notre prophète alayhi salatu wassalam a choisi la solution la plus facile, l'humilité, et de vivre dans le strict minimum. Et le hadith de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, dit que je jure par Allah que nous avons accompagné notre prophète alayhi salatu wassalam tant en voyage que lorsqu'il était muqim al-hadari à Medina, wa kana ya'ud mardana wa yatba'u janaizana wa yarzu ma'ana, jusqu'à la fin du hadith. Et notre prophète, il rendait visite aux malades, il allait aux enterrements, c'est-à-dire sans distinction. C'est pas que c'est un gros oiseau, il est mort, allons son enterrement. Ça c'est grand famille, ça, on va aller son enterrement. Ou alors ça c'est quelqu'un d'important, il est à l'hôpital, on va le rendre visite. Et celui-là, il habite dans un petit quartier, ça habite Moufia, ça c'est un pauvre. Et ça, il est mort, ben il est mort, là il est pitié de lui. Mais moi, me déplacer, aller suivre son janaza à Kabristan, non. Notre prophète, il agissait totalement, au contraire. Il allait rendre visite à tout le monde, que ce soit un noble ou quelqu'un qui vient de se convertir, quelqu'un qui n'est même pas arabe, qui est pauvre. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, ne faisait pas de distinction parmi les gens. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, faisait salam à tout le monde, même aux enfants. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, on l'a vu dans d'autres hadiths avant ça, notre prophète, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de donner la main, de faire salam aux enfants et de plaisanter avec les enfants. Ce n'est pas qu'il se dit que moi, prophète, je suis un grand homme, la meilleure des créatures, je ne vais pas me rabaisser, aller voir des gens et tout. Non, notre prophète, alayhi salatu wassalam, il avait l'habitude de fréquenter un maximum de personnes. Hada. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, également acceptait les invitations, même des gens pauvres. Le hadith explique qu'il y avait des gens qui ont invité le prophète, alayhi salatu wassalam, et après, ils ont fait la salat ensemble, et la personne dit, j'ai fait un saf, une rangée. Ana wal yatim wara'ahu. Il y avait moi, le prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait un orphelin, et il y avait une vieille dame aussi qui faisait la salat derrière le prophète, alayhi salatu wassalam. Notre prophète ne choisissait pas les gens vers lesquels il allait quand il avait des invitations, mais notre prophète, comme on a dit, il fréquentait un maximum de personnes. En terminant avec ça, on a demandé à Aïcha, radiallahu anha, comment se comportait notre prophète à la maison. Il a dit que notre prophète, à la maison, se comportait comme n'importe qui. Et plus encore, il était au service de sa famille. Notre prophète, il avait l'habitude de tirer le lait avec les chèvres. Notre prophète alayhi salam réparait lui-même ses chaussures. Notre prophète alayhi salam avait l'habitude de coudre lui-même ses vêtements, etc. C'est-à-dire qu'il participait aux tâches domestiques. Allez trouver un chef d'État qui fait ça aujourd'hui. Allez trouver un ministre, allez trouver un député. Il va avoir 10 bonnes, je ne sais pas combien de serviteurs, combien de chauffeurs, mais personne n'aura un statut comme le prophète, Ashraful Makhlouqad, et qui agissait avec autant d'humilité, avec autant de simplicité, tant dans ses rapports avec les Sahaba que dans ses rapports avec ses épouses, ridwanullahi ta'ala alayhi majma'in. Et concernant le mode de vie, comme on l'a vu tout à l'heure, il a choisi la pauvreté. Une fois, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il rend visite au prophète alayhi salatu wassalam qui était allongé. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam s'est assis, Omar a vu des traces du lit du prophète, comme des branches de dattes, des feuilles de dattes qui étaient séchées, qui composaient le lit des gens de cette époque.
il a vu les traces sur le dos Moubarak du prophète alayhi salat wa sallam. C'est-à-dire que le prophète n'avait même pas un lit douillet. Il n'avait rien, strictement rien chez lui. Et Omar radiallahu anhu s'est mis à pleurer. Il dit, « Rasoul, quoi dit Omar, ma yubkika ?» Qu'est-ce qui te fait pleurer? Il dit, « Rasoulallah, inna kisra wa qaisar fi ma huma fi » Il dit que le roi des Romains et des PS, ils ont des palais et des châteaux, ils ont tant de richesses. « Wa anta ya Rasoulallah » Et toi, prophète d'Allah, tu vis dans une telle pauvreté. Le prophète dit, « Amma tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhira u'man » Tu préfères pas qu'eux, ils ont le dunya, mais qu'Allah nous réserve à nous l'akhira. Regardez, subhanallah, la vision de le prophète A.S. En aucun cas, il s'est dit que moi, en tant que Ashraful Makhlouqat, Allah doit me combler. Non, il a dit qu'au contraire, Omar, c'est mieux. Laissez ces gens-là avoir le dunya. Laissez ces gens-là de leur palais, de leur richesse, de leur confort, et que nous, on n'a rien. Mais ce sera mieux pour nous là-haut. Là où nous, on aura tout, et ces personnes-là, ils n'auront strictement rien. Nous voyons donc, à travers le mode de vie du prophète, notre prophète donc fréquentait tout le monde. Notre prophète, mangeait simplement. Également dans les habits. Le prophète dit que Al-Badadatu min al-Iman. On terminera avec ça. Al-Badada, c'est quoi? C'est le fait de s'habiller simplement. Et dans un hadith, on fait la relation, il dit que. Je ne trouve pas le hadith là tout de suite, dit que celui à qui Allah a donné les moyens et que malgré ça la personne s'habille de manière très simple, hein, il ne fait pas preuve d'orgueil en mettant des habits très, très luxueux, il ne fait pas preuve de fierté avec ses habits, Allah Ta'ala l'appellera le jour de la résurrection pour lui donner telle récompense. Ça c'est pour la personne qui fait preuve d'humilité, même dans sa façon de s'habiller. Donc la vie le prophète fréquentait tout le monde, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de manger, hein, dans les relations qu'il avait avec les gens, le prophète alayhi salatu wassalam faisait preuve d'humilité. Donc Allah nous a fait, nous aussi, d'essayer de développer ce genre de qualité, parce qu'il faut casser l'orgueil qu'il y a en nous. Il faut casser cette idée qu'on se fait de soi. Non, moi je ne suis pas comme les autres. Moi c'est quelqu'un d'autre. Moi je suis au-dessus des gens. Là, Wallah, notre prophète qui était vraiment lui au-dessus des gens, il se mettait toujours au niveau de tout le monde. Et puis ce qui nous importe le plus, ça c'est dans les actions, hein, dans la manière d'agir, mais dans notre propre intérieur. Hein, l'humilité c'est quoi? C'est d'accepter la vérité et savoir se rabaisser pour Allah Azza wa Jalla. Donc si aujourd'hui on fait un bilan, si j'ai des problèmes avec telle personne ou telle personne de la société, de la communauté, musulman ou non musulman, je me dois de me dire que ben, je vais me rabaisser par amour pour Allah, pour que mes actions ne sont pas rejetées par Allah, hein, quand ça concerne des mu'mines bien sûr, et faire preuve de tawadhu comme notre prophète alayhi salatu wassalam le faisait. Il y avait une citation magnifique sur la conclusion de l'Hassan al-Basri. On a demandé « Su'il al-Hassan al-Basri al-Tawadhu » Il dit « Oh Hassan, explique-nous, donne-nous ta définition de l'humilité. » Il a dit « Al-Tawadhu » أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. C'est-à-dire, l'humilité, c'est quoi? C'est quand tu sors de chez toi et que chaque musulman que tu rencontres, tu le regardes d'un regard admiratif et tu trouves en lui des qualités que tu n'as pas. Et nous, c'est le contraire. Quand on voit quelqu'un, il critique, qu'est-ce là, comment il habille, qu'est-ce là, comment il mange, pareil, malade, qu'est-ce là, comment il mange, il sent mauvais, il est comme ci, il est comme ça, il vient pas là. On voit, yani, Allah, on voit que les défauts chez les gens. Et Hassan, il dit qu'au contraire, chaque musulman que tu rencontres, observe-le et trouve une qualité qu'il a en lui et que toi, tu n'as pas. Qu'Allah nous accepte, remplit nos cœurs de sincérité, d'humilité, de tendresse, pardon, et de rahma pour les gens, et qu'Allah enlève ces sifats de kibre, de farc, d'orgueil que Shaitan aime mettre dans nos cœurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.